Bonjour à tous, bienvenue. Si vous êtes là de passage, on accueille les... Qu'est-ce qu'on dit ? Les stagiaires de Focus Preaching, je ne sais pas, les internes. Les... Donc c'est un gros stress pour moi parce que du coup, ils vont me noter après, je ne sais pas. Vous pouvez chercher, si vous voulez suivre dans la Bible, Matthieu chapitre 13. Merci Judith aussi, merci de ton témoignage. Il faudrait tout de suite que je donne un avertissement, comme en début, toute ressemblance avec ce qui suit est purement fortuite. Enfin, non, je pense pas. Je pense que c'est le Seigneur qui conduit les choses. Mais dans ce que tu as dit, ça va illustrer parfaitement ce que j'ai envie de dire ce matin. Donc, merci. Alors, ça fait, juste pour situer ceux qui passent là, depuis plusieurs semaines, on a regardé la série d'histoires relatées par Jésus dans l'évangile de Matthieu, où il cherche à illustrer divers traits caractéristiques de la façon de Dieu d'agir dans le monde. Ce sont les histoires qui sont communément appelées les paraboles du royaume. Et voilà, on est en rodage dans nos nouveaux locaux d'église depuis quelques temps. Alors j'ai trouvé que c'était important de souligner ce que Jésus nous demande avant tout. Et ce que Jésus nous demande avant tout, c'est de chercher d'abord le royaume de Dieu. Et si nous faisons cela, nous pouvons compter sur lui pour bâtir l'Église. Donc, c'est un petit cours de révision pour voir comment chercher le royaume de Dieu et à quoi ressemble le royaume de Dieu. Et la dernière illustration du royaume de Dieu dans ce chapitre, ou le royaume des cieux, comme Matthieu l'appelle, elle est très courte. Elle vient un petit peu en annexe. Et on peut constater ça si on lit Matthieu chapitre 13, versets 51-52. Matthieu 13, 51-52. Jésus demande à ses disciples, « Est-ce que vous avez compris tout cela ?» Ils lui répondent, « Oui. » Jésus leur dit, « Un maître de la loi qui devient disciple du royaume des cieux, voici à qui il ressemble. Il est comme un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Alors, Jésus compare le royaume des cieux à quelque chose de nouveau qui prend sa place à côté des choses anciennes. Où il compare le royaume des cieux à cet ensemble des choses anciennes et des choses nouvelles. Les choses anciennes là-dedans, il dit, c'est la loi. Un maître de la loi qui, voilà. Donc, c'est quoi ? À quoi Jésus fait-il allusion en parlant d'un maître de la loi ? De quelle loi est-ce qu'il s'agit ? Peut-être on pense d'abord à tout l'ensemble de lois que Dieu a donné au peuple d'Israël. Il y avait la loi morale, les 10 commandements, tout ça. Il y avait aussi la loi sociale. C'est toute la série de lois qui régissaient la vie quotidienne du peuple d'Israël. Et il y a la loi religieuse. Il y a tous les dispositifs qui édictaient comment le culte devait être rendu à Dieu sous l'ancienne alliance avec tout le système de sacrifices. Donc il y avait la loi dans ce sens-là. Mais lorsqu'un juif du temps de Jésus parlait de la loi, c'était plus large que ça. Quand un juif de l'époque parlait de la loi, il parlait aussi, il faisait référence aux 5 premiers livres de l'Ancien Testament, attribués à Moïse, qu'on appelle aussi le Pentateuque. Donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Alors, dans les 3 derniers, Lévitique, Nombre et Deutéronome, il y a effectivement beaucoup de lois, parfois des lois très particulières et détaillées pour une société d'il y a plusieurs millénaires. Et si vous commencez à lire ça dans votre culte personnel, vous avez tendance à... Parce que des fois, c'est un peu compliqué, on a du mal à comprendre. On se dit, en quoi est-ce que c'est utile pour nous aujourd'hui? Mais même dans ces 3 livres, même dans Lévitique, faut pas que je me plante, Lévitique, il me stresse là, les autres. Lévitique, Nombre et Deutéronome. Même dans ces 3 livres, et encore plus dans les 2 premiers, dans Genèse et Exode, il n'y a pas que des lois. Il y a aussi des récits. Le récit des origines du monde, au tout début du livre de la Genèse. Le récit de comment Dieu a appelé des hommes à le suivre, comment il a appelé Abraham, comment il lui a fait une promesse, comment à partir de cette promesse, Dieu s'est constitué un peuple, le peuple d'Israël. Le livre d'Exode, vous connaissez, ça rappelle la délivrance de ce peuple, enfin ça raconte la délivrance de ce peuple de l'esclavage et leur périple dans le désert avant d'arriver avec la fin de Nombre par là à la frontière du pays qui leur était promis, là où Moïse est décédé. Et le Deutéronome, Quant à lui, il contient plus de lois que tous les autres livres du Pentateuque, mais quand même, même le Deutéronome se termine par un cantique de louange. Donc la loi, oui, c'est un ensemble législatif, mais c'est aussi une histoire. C'est l'histoire de comment Dieu a commencé à entretenir des relations avec une humanité en rupture avec lui. Oui, il a donné des lois dans ce cadre, c'est sûr, mais il n'a pas juste balancé une sorte de code pénal en hébreu du haut du ciel en disant « débrouillez-vous ». Non, il a fait cela dans un contexte de relation avec un peuple, un contexte où ils étaient en pleine construction d'une culture. Donc Dieu se révèle non seulement dans des textes abstraits, mais aussi, et voire surtout, dans son interaction avec les êtres humains, dans sa façon de faire avec eux, dans et par une culture. Je dirais que la loi, ça nous montre la loi de Dieu, mais ça nous montre un petit peu aussi la jurisprudence. Ça veut dire, ça montre comment est-ce qu'on décidait les choses par rapport à la loi, comment Dieu faisait interprétation de la loi, comment les gens avaient compris la loi, comment ils répondaient avec Dieu par rapport à cette loi. Et tout ça, ça construit un ensemble, une histoire, un récit, un peuple, une culture. Et Jésus dit donc que le royaume des cieux ressemble à ce maître de la loi qui va tirer des choses anciennes et nouvelles, ce maître de maison, pardon, qui va tirer des choses anciennes et nouvelles de ses trésors. Alors je pense que pour nous déjà, une première application de cette histoire de Jésus, c'est qu'alors que nous cherchons le royaume de Dieu, aujourd'hui et dans le futur, dans le déjà et le pas encore, nous ne devons pas négliger nos origines. Nous vivons dans un temps où on a tendance à mépriser le passé. On pense que le passé n'a rien à nous apprendre, nous on sait tout. Mais notre histoire nous éclaire sur notre présent. Et pour nous qui sommes chrétiens de la Nouvelle Alliance, l'Ancien Testament nous donne le contexte culturel dans lequel Jésus est arrivé. Et déjà, il nous met un petit peu la puce à l'oreille sur comment Dieu va fonctionner avec nous. Et en réunissant l'ancien avec le nouveau, Jésus parle de tout ce contexte, mais cette petite illustration qu'il donne peut aussi nous faire penser à ce qu'il a dit de lui-même et de son propre ministère. Dans le sermon sur la montagne, c'est aussi en Matthieu, Jésus dit ceci, « Ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Ou comme dit la version Parole de vie, pour lui donner tout son sens. Et en disant cela, un peu à l'instar de cette parabole, Jésus indique qu'il y a une continuité entre l'œuvre de Dieu par le biais de l'Ancienne Alliance et son œuvre dans la Nouvelle Alliance. Il a apporté quelque chose de nouveau, mais ce n'était pas pour se substituer à l'ancien. Ce n'était pas pour abolir l'ancien. Alors évidemment, l'approche de Jésus était radicalement différente du statu quo religieux. Si Jésus devait contrer l'idée qu'il serait venu abolir la loi, c'était bien parce qu'il pourrait donner cette impression. On n'a qu'à voir la réaction des maîtres de la loi de l'époque. Ils étaient plutôt scandalisés. Jésus a bien apporté du changement. Mais en réalité, ce qu'il dit là, c'est que son changement, c'est un changement dans la continuité. Et là où Jésus, c'est là où c'est important, là où Jésus a fait une rupture, c'était avec ceux qui s'étaient mis dans la tête qu'en suivant rigoureusement les dispositions légales de l'Ancien Testament, qu'ils pouvaient se rendre justes aux yeux de Dieu. Ils avaient pris le cadre de vie que Dieu leur avait établi comme un moyen de gagner le ciel par leurs propres moyens. Dieu a donné ce cadre, il s'est dit, tiens, si on fait tout ça, eh bien, ce sera bon, on sera avec Dieu. Et par sa vie, et par ses paroles, Jésus leur a fait la démonstration de leur erreur. Et la parole la plus forte de Jésus, moi je trouve que c'est vraiment une parole choquante, mais intéressante, c'est peut-être celle-ci qu'il adresse à des chefs religieux. Vous vous servez de votre tradition pour supprimer la parole de Dieu. Ça m'a toujours impressionné qu'avec une tradition, on pouvait carrément supprimer, anéantir la parole de Dieu. Jésus, lui, au lieu de supprimer, anéantir, annuler la loi, il dit qu'il vient l'accomplir. Et ses auditeurs en Matthieu 13, ils ont affirmé qu'ils ont tout de suite compris ce qu'il venait de leur expliquer. Avez-vous compris tout cela ? Ouais, pas de problème, chef. Bon, en fait, non. Et on le voit déjà, lorsqu'il est ressuscité, on voit que les disciples, ils ne comprennent toujours pas ce qui s'est arrivé. Enfin, bon, ils sont un peu lents, quoi. Ils ont affirmé comprendre tout de suite ce que Jésus leur expliquait. Mais la réalité, c'est qu'il leur a fallu beaucoup plus de temps pour comprendre cela. Et les différentes lettres dans le Nouveau Testament documentent cette compréhension grandissante. L'apôtre Paul, lui-même ex-maître de la loi, c'est celui qui s'adonne le plus à cet exercice de comprendre et puis de décrire son raisonnement. Alors, on ne peut pas lire tout Romains et Galates et Éphésiens ce matin, mais il a notamment démontré que depuis toujours, l'être humain entre en relation avec Dieu, non pas par l'obéissance à une loi quelconque, mais par la foi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, on ne sait pas qui c'est. Dans l'église où j'ai grandi, on se dit, bon, c'est pas l'apôtre Paul, mais l'apôtre Paul était derrière en train de lui dire, enfin, bon. On ne sait pas qui c'est. Mais lui, il a témoigné de comment Jésus a accompli la loi. C'est en Hébreux chapitre 10, vous les cherchez. La loi de Moïse ne reproduit pas exactement ce qui existe. Elle est seulement l'ombre de biens qui seront donnés plus tard. Elle demande qu'on offre sans arrêt, chaque année, toujours les mêmes sacrifices. C'est pourquoi elle ne peut absolument pas rendre parfaits ceux qui s'approchent de Dieu. C'était l'erreur que croyaient les maîtres de la loi, certains maîtres de la loi. Le sang des taureaux et des boucs ne peut pas enlever les péchés. Le Christ supprime les anciens sacrifices, toute la répétition. Il les remplace par le sien. Il a offert son corps une fois pour toutes et nous sommes alors libérés du péché. Ces premiers chrétiens du Nouveau Testament, ils avaient compris ce que les autorités religieuses de cette époque avaient tant de mal à comprendre, que Jésus ne venait pas démonter toute leur loi, démonter tout leur dispositif parfait du salut, mais il est venu leur montrer la réalité qu'il annonçait. Qu'il y avait bien une continuité et pas une substitution. Je ne sais pas combien d'entre vous ont été au lac de Tremelin. En fait, il y a quelques mariages par là, peut-être. Enfin bon, c'est un grand lac en centre de Bretagne, enfin, pas très loin d'ici. Et surtout avant la Côte d'Ivoire et Saint-Malo, on allait souvent là plutôt qu'à la plage. Et il y a très longtemps, je me souviens qu'on y allait. Il y a un truc qui nous a frappé, moi et Naomi. Bon, il y avait un immense parking, c'était à peu près ce temps-là. Il y avait un immense parking, le parking était blindé de voitures. Et dans ce parking, dans le fond du parking, il y avait une voiture, et à côté du voiture, deux chaises de pique-nique, et les deux personnes de la voiture assises sur les chaises de pique-nique dans le parking. Depuis 30 ans, on ne comprend toujours pas, quoi. Ces gens, ils sont donné la peine de faire le déplacement jusqu'à la Tremelin. Ils sont sortis de la voiture, ils ont posé leurs deux chaises, et ils n'avaient absolument pas la vue, ils n'ont pas pu voir le lac, pas pu voir la forêt, impossible, mais ils étaient là. Bon, peut-être il faudrait que je les cherche. Mais quelque part, c'était ça l'erreur des maîtres de la loi. Imaginons que, bon, je ne sais pas ces deux personnes à Tremelin, mais imaginons qu'ils avaient acheté le livre guide de Tremelin. Ils se sont documentés sur la beauté du lac, sur la forêt, sur le parcours nature, tout. Ils connaissent ça de A à Z. Et puis, ils ont la carte, ils savent comment y aller. Mais ils y vont, et donc ils voient le panneau Tremelin, disent, ça y est, on est là, c'est bon, on s'installe. Et puis voilà, ils sont contents, ils relisent le guide. Oh, ouais, c'est bon, effectivement, je comprends qu'il y a un lac ici, etc. Et puis quelqu'un vient leur taper à la fenêtre en disant, bah, écoutez, vous n'avez pas vu le lac. Mais non, on ne veut pas de votre lac, c'est notre guide, c'est ici. Ça, c'est Jésus. Et ça, c'est le rôle de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance par rapport à la Nouvelle. C'était là, c'est dit en hébreu, une ombre des biens qui seront donnés plus tard. Et l'erreur dans laquelle ils sont, c'est pas que la loi n'était pas bonne, c'est que la loi n'était pas faite pour être la réalité. La loi était là pour montrer ce que Jésus allait faire par la suite. En relisant bien l'Ancien Testament, ces premiers chrétiens, ils ont aussi compris qu'il y avait des indications dans ce sens depuis le début. Et c'est bien là, si vous regardez, depuis le début. Dieu avait l'intention de se faire un peuple pour lui, composé de gens de toute langue, toute tribu, toute nation. En toi, toutes les nations seront bénies, disait-il à Abraham. En relation avec lui, non pas par leurs bonnes œuvres, mais grâce à la victoire sur le mal et le péché que Dieu a accompli pour tous dans l'œuvre de son Fils sur la croix et dont il a démontré la réalité en ressuscitant son Fils de la mort. Abraham crut et cela lui était compté comme justice. C'est dit déjà dans la Genèse. Déjà dans la Genèse, au tout début, c'est dit, tu enfanteras un fils et puis il va briser, il va écraser la tête du serpent. Déjà, c'était là, dès le départ. Il n'y a pas de plan A avec l'ancienne alliance qui aurait échoué pour que Dieu ait recours à un plan B avec Jésus. Il y a un seul plan, un seul chemin, un seul sauveur annoncé, anticipé par toute la loi, l'histoire, le culte et de l'Ancien Testament. Et tout cela trouve son sens et son explication dans la personne et l'œuvre du Christ. L'Ancien Testament apporte un éclairage historique et culturel sur le Nouveau Testament. C'est pour ça que c'est utile de le lire. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, il y a plein d'œufs de Pâques, comme on dit. Hein, dans un programme, dans un logiciel, dans un jeu, il y a plein d'œufs de Pâques qu'on peut découvrir. Tiens, là, il faut être un peu initié pour les découvrir. Ben, dans le Nouveau Testament, il y a plein d'œufs de Pâques comme ça. Rappelez, l'autre jour, on a parlé des 3 kilos de farine là, dans la parabole. Ben, ça, tout de suite, hop, c'est un œuf de Pâques par rapport à un truc dans l'Ancien Testament. Il y en a plein d'œufs comme ça. Ben, si tu laisses tomber l'Ancien Testament, tu ne vas pas avoir ces œufs de Pâques. Donc, je te recommande ça. L'Ancien Testament apporte un éclairage historique, culturel sur le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament apporte le sens théologique à l'Ancien. Donc, ce sont deux trésors qui se complémentent mutuellement. Alors, il ne peut pas y avoir de doute que Jésus parlait avant tout de ce rapport complémentaire entre la nouvelle alliance qu'il annonçait et l'ancienne alliance. Mais dans le même temps, cette aptitude de la nouveauté du royaume de Dieu à faire bon ménage avec ce qui est ancien peut aussi avoir des applications plus larges et plus immédiates pour nous. On a déjà considéré comment l'Ancien Testament donne du relief au Nouveau. Mais plus généralement, l'œuvre de Dieu dans le passé est aussi un trésor à se faire ressortir, un trésor à chérir, alors même que le royaume de Dieu avance aujourd'hui. C'est devenu un peu à la mode dans certains milieux évangéliques de parler d'acte 29. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Il y a même, je pense qu'aux US, il y a déjà toute une dénomination de ce nom. Et l'idée, en quelque sorte, bon, en acte, il y a 28 chapitres. Et je comprends. L'idée, en quelque sorte, c'est de dire que, bon, acte 29, ça veut dire que là où le livre des actes est terminé, ben, nous, on s'inscrive dans la suite immédiate de la jeune église. Et là, l'histoire de la Bible s'est terminée. Ben, nous, allez, hop, on reprend à la page suivante. Bon, ok, je comprends, c'est pas mal. Mais je trouve ça un peu arrogant, quand même. Et c'est pareil, si tu te balades, alors, je ne cite pas de nom, personne ici, mais si tu te balades sur l'introduction de site web de quelques églises, il faudrait que je regarde un autre d'ailleurs, mais non, elle est très bien, je vais vérifier. Mais si on se regarde sur les pages d'introduction de quelques sites web, on pourrait avoir l'impression que l'évangile n'avait jamais été annoncé dans leur ville avant qu'il ne s'y implante dans, disons, les années 80, quoi. Alors, ok, je veux bien, on revendique une annonce de l'évangile plus claire, plus théologiquement correcte, d'accord. Mais quand même, on peut difficilement faire semblant qu'on est tombé de nulle part il y a 30 ans. C'est quand même pas possible. Il y a une histoire. Il y a quelque chose qui s'est passé avant. Et tout comme il y avait une ancienne alliance avant la nouvelle, il y a quand même quelques 2000 ans d'histoire de l'Église avant nous. Et elle a quand même permis, reconnaissons-le, bon an, mal an, à ce que cet évangile traverse des siècles, traverse les pays jusqu'à nous. Alors on va se réjouir des trésors du royaume de Dieu d'aujourd'hui. On va se réjouir de notre manière de célébrer le culte, de tout ce qu'on connaît. On va célébrer tout ça, pas de problème. Mais n'oublions pas l'histoire de l'Église, ses trésors et les leçons que nous pouvons en tirer. On dit que l'histoire se répète, elle doit bien se répéter parce que personne ne l'écoute. Il faut savoir écouter. Et puis enfin, dans le même ordre d'idée, il y a notre propre histoire à chacun. Alors, c'est vrai que l'apôtre Paul affirme qu'en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Mais les choses ne se résument pas quand même complètement à cela. Dans le même chapitre, Paul y fait état de la tension entre le déjà et le pas encore, alors que cette nouvelle nature habite notre corps physique. Je vous laisserai lire cette tension. Lorsque nous venons à lui, Dieu nous fait connaître son pardon, il nous donne une nouvelle identité, mais il ne fait pas un échange standard, ou pour les informaticiens, un hot swap. Non, c'est pas que voilà, il sort le disque dur, il met un autre. Non, c'est pas comme ça. Le mot clé, et c'est le mot que nous trouvons aussi chez Paul dans la même lettre, c'est la transformation, de jour en jour. C'est pas comme tu as une bagnole et puis bah, tu vires le moteur et puis tu en mets un autre à la place. C'est pas ce que Dieu fait. C'est la transformation, de jour en jour. Et nous pouvons être tentés de désavouer totalement notre passé. Des fois, ça peut nous sembler plus facile de le désavouer. Mais cette petite parabole nous ouvre une perspective bien plus énorme, et vraiment énorme. Tout comme Jésus n'est pas venu abolir la loi, tout comme la Nouvelle Alliance n'est pas venue détruire l'ancienne, mais la transformer et lui donner du sens, tout comme le maître de maison ne jette pas ses vieux trésors, mais les sort aux côtés des nouveaux, Jésus vient dans notre vie, non pas pour l'anéantir, ou pour faire semblant que notre vie ancienne n'ait jamais existé, mais pour la transformer et lui donner du sens. À ses frères qui l'ont trahi, Joseph dit que Dieu a transformé le mal qui lui en fait en bien. Dans la vision de Jean, dans l'Apocalypse, Jésus fait une déclaration extraordinaire. « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » La traduction « Nouvelle Bible seconde » est encore plus saisissante. « De tout, je fais du nouveau. » Ou comme le dit la version Parole de vie, « Maintenant, je transforme ce qui existe. Tout devient nouveau. » La perspective, c'est bien plus qu'une simple substitution. C'est une transformation de tout l'existant, y compris le passé, y compris ce qui était mauvais, à la gloire de Dieu. En bon maître de maison, écoutons donc cette consigne du Seigneur. À ne pas chercher à supprimer notre propre histoire, mais plutôt de la sortir pour qu'elle soit travaillée à l'aune de la vie nouvelle qu'il a mise en nous. Et alors que nous continuons à chercher le royaume de Dieu jour après jour, il va aussi transformer même les aspects les plus sombres de notre vie en trésors. Et par son esprit, il met ce même ministère de transformation entre nos mains pour l'apporter aux autres. Il y a un chant qui s'impose. C'est nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, qui dit que nous sommes transformés. Il y a l'ancien et le nouveau. Et moi, j'aimerais bien qu'on prenne ce chant qui dit « Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père », et qui dit que nous sommes transformés à son image, transfigurés par le Seigneur l'Esprit. Et qu'on ait le courage de croire que Dieu puisse sortir des vieux trésors aussi bien que des nouveaux chez nous, qu'il puisse nous réconcilier avec lui, avec nous-mêmes, et qu'on sache aussi lire les Écritures, l'histoire qui est dedans, et l'histoire de l'Église de la même manière. Allez.